Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié jeudi 3 février sa feuille de route du processus électoral. Le président de la centrale électorale a précisé que cette feuille de route comprend les différentes opérations qui vont de 2021 à 2027. Cependant, il a averti sur les contraintes auxquelles il faut vite trouver des solutions pour la réussite de la tenue des élections de 2023. Il s'agit entre autres du retard dans le financement des opérations électorales, de la volonté politique, de la production à temps des lois essentielles et de la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Le président de la CENI a aussi prévenu que si on opte pour un deuxième tour pour l'élection présidentielle, cela aura une incidence aussi bien sur la feuille de route que sur le calendrier électoral qui prévoit la tenue des scrutins directs entre septembre et décembre 2023. Que pensez-vous de la feuille de route du processus électoral publiée par la CENI? Quelles solutions faut-il pour contourner les contraintes? Nous en parlons ce soir avec Franklin Tshamala, vice-ministre honoraire du plan et le président du parti politique allié pour un Congo, pour un nouveau Congo, ANC en sigle, membre du regroupement politique Alliance pour la transformation intégrale du Congo, membre de l'opposition. Franklin Tshamala, bonsoir.
Madame Kélinkouté.
Toumba Tshabola Bintou, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Il est élu de Katanda au Kassa Oriental. Toumba Tshabola Bintou, bonsoir.
Bonsoir.
Et Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Kapi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Charles Mpoudika à Luena, dans la province du Lomami. Toutes ces contraintes sont contournables par une volonté politique des dirigeants congolais afin que les élections se tiennent dans les délais. Cependant, mettant l'accent sur ces points, le président de la centrale électorale met en doute la promesse du chef de l'État de donner aux Congolais des bonnes élections en 2023. Robert Baume de Bukavu, Sud Kivu, je pense que la feuille de route du processus électoral publié par la CENI est claire, mais seule et alors seule la volonté politique réelle de l'autorité peut suffire pour que cette feuille de route soit respectée et que l'on puisse ainsi passer les élections dans les délais constitutionnels. À Bukavu, Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Deux importantes décisions ont été rendues publiques jeudi 3 février dernier à Kinshasa par la centrale électorale congolaise. La première concerne la publication de la feuille de route du processus électoral 2021-2027. Et la seconde porte sur la publication du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. S'agissant de la feuille de route, elle englobe toutes les activités de la CENI partant du mois de novembre 2021. Elle reprend les séminaires d'imprégnation et production des outils de gestion du processus en passant par l'organisation de la cartographie électorale, des scrutins indirects des sénateurs et conseillers urbains jusqu'aux préparatifs du nouveau cycle électoral de mars 2024 à mars 2027. Quelques séquences de cette feuille de route avec vous, Jeff Ngoy.
Cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement selon le président de la CENI et s'articule autour de trois séquences, à savoir celle des élections directes du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers de communes, de secteurs et de chefferies. La période est de janvier 2022 au mois de décembre 2023 et mars 2024. Elle inclut notamment le plaidoyer et lobbying auprès d'autres institutions sur la dite feuille de route, la mise à jour de la cartographie opérationnelle. La deuxième séquence englobe les élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres ainsi que des chefs de secteur. Elle va de janvier à mars 2024. Enfin, la troisième séquence concerne les activités de pérennisation du processus électoral allant des mois de mars 2024-2027. Ici, la CENI prévoit entre autres la sensibilisation électorale, la vulgarisation des lois et communications publiques, l'éducation civique et électorale, le contrôle des inventaires et maintenance du matériel électoral.
La non-autonomie financière de la CENI portera atteinte à son indépendance, a déclaré le président de la centrale électorale en relevant plusieurs autres contraintes liées au respect de la feuille de route ainsi publiée jeudi dernier. Il s'agit notamment des contraintes d'ordre politique, juridique, sécuritaire et logistique. Selon le président de la CENI, si ces contraintes ne sont pas vidées, elles auront une incidence sérieuse sur la concrétisation de tout ce que la feuille de route annonce. Denis Kadima explique quelques-unes au micro de Jeff Ngoy.
Il s'agit d'abord des contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI, l'insécurité dans certaines zones du territoire national, ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Les contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Nous allons, bien sûr, dans l'avenir, discuter avec des partenaires internationaux. Là aussi, l'éventuel non-respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement du processus électoral pourrait avoir une influence négative sur les délais des opérations. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales.
Franklin Tchamala, vice-ministre honoraire du Plan, vous êtes président du parti politique Allié pour un Nouveau Congo, ANC en sigle, membre du regroupement politique Alliance pour la transformation intégrale du Congo, ATIC, membre de l'opposition. Que pensez-vous de la feuille de route du processus électoral publié par la CENI?
Merci beaucoup pour votre invitation, Madame Kelly. Globalement, il faut dire que c'est une feuille de route en fait qui est une reproduction des feuilles de route antérieures qui ont caractérisé les cycles électoraux antérieurs. Et quant aux contraintes qui grèvent ce processus, le processus 2023, les contraintes sont des contraintes somme toute abordables. Tout dépend de la volonté politique.
Franklin Tchamala, oui. La publication de cette feuille de route du processus électoral, est-ce une façon pour la CENI de montrer qu'elle a la volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels?
Bon, ça peut être perçu comme étant une volonté de la part des animateurs de la CENI, mais comme vous le savez, les contraintes qui ont été déroulées démontrent que l'organisation de ces élections ne dépend pas uniquement de la capacité technique de la CENI à pouvoir le faire. Déjà que sur le plan du financement, la CENI est tributaire du budget de l'État. Et s'agissant du budget de l'État, compte tenu de sa taille, déjà insuffisante, et de toute la pression exercée sur ce budget par les priorités des gouvernances de tous ordres, en commençant par le fonctionnement des institutions qui consomment près de 85% de ce budget, voyez-vous, 85% vont déjà dans le fonctionnement des institutions, sans compter ce qui va dans la sécurité qui est également une priorité en ce moment, et déjà, comme vous le savez, notre budget peine déjà à dégager des quotités destinées à couvrir les investissements. Je me demande à cette allure ce qui va être fait pour la prise en charge des élections dès lors qu'il est établi. Il est établi en fait qu'on est en train de nous courir après les temps. Il ne nous reste qu'environ 16 mois pour aborder les élections directes elles-mêmes. Il nous reste pas 16 mois. Alors, en 16 mois, 600 millions de dollars à mettre sur la table, ou en moyenne 500 millions à mettre sur la table, vont être puisés où? Vont être trouvés comment? Parce qu'il s'agit ici de trouver environ, dans cette proportion-là, au moins 30 millions de dollars mensuellement.
Pour rencontrer les besoins. Vous pensez que c'est difficile pour la RDC de trouver cet argent, ce montant?
mais je dis que c'est compte tenu de toutes les priorités gouvernementales, qui sont alignées notamment au budget 2022. Toutes les priorités, on nous dit...
Le gouvernement peut décider de privilégier les élections.
Eh bien, on privilégie les élections dans un pays des vivants. Ça veut dire que le développement est aussi important que les élections, vous comprenez? Et donc, le financement de la sécurité intérieure, déjà, nous avons une contrainte sécuritaire. Les déploiements de la logistique électorale à l'est de notre pays, la collecte des données à l'est de notre pays. Le président convient avec nous que ça posera problème. Il n'y a pas que l'Est. Il y a des pans importants du territoire national qui sont insécurisés et où les déploiements de la logistique électorale va poser problème. Et donc, je dis que il y a beaucoup de facteurs qu'il faut aborder avec célérité compte tenu du peu de temps qui reste, sous peine de passer à côté de l'objectif.
Vous êtes donc d'accord avec Denis Kadima lorsqu'il dit que si on ne trouve pas de solution rapidement face à toutes ces contraintes, il y aura sûrement un glissement, ça aura sûrement une incidence sur les opérations électorales.
Mais tout à fait d'accord avec lui encore que, à propos du glissement, le glissement fait partie de l'agenda caché, des gouvernants actuels. On dirait que tout est fait pour nous y amener. Et comme vous le savez, le glissement n'a jamais été désiré par notre peuple. Le glissement avec tout l'impact négatif, toute la charge négative qu'il apporte sur la gouvernance globale du pays n'a jamais été désiré par notre peuple. Et donc j'ai dit, et encore une fois j'ai dit, 30 millions de dollars à mettre de côté mensuellement jusqu'au début de l'opérationnalisation du cycle électoral, c'est possible pourvu qu'on veuille sursoir à d'autres priorités. Voilà, donc c'est ça la question.
Toumba Tchabola Bintou, vous êtes député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes élu de Katanda au Kasaï Oriental. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette feuille de route du processus électoral publiée par la CENI?
Je commence par saluer tous les auditeurs de la radio Capi et tous les co-débatteurs. Bon, j'espère que c'est une feuille de route qui est réaliste, compte tenu de la situation dans laquelle l'actuel président de la CENI avec son équipe a trouvé dans notre pays. La CENI a évoqué notamment les différentes contraintes auxquelles on a fait allusion tout à l'heure, entre autres les temps limités pour la préparation des élections, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles, la mutualisation, la sécurité, le financement des élections, les problèmes sanitaire et logistique. Ce sont en résumé les 8 contraintes que la CENI a évoquées. Mais il faut dire qu'il y a des contraintes qui vont certainement trouver des solutions rapidement.
Lesquelles?
Par exemple, la volonté politique. La volonté politique ne peut pas être évoquée pour le moment comme étant une contrainte puisque le chef de l'État actuel veut aller aux élections en 2023. Il s'est déjà exprimé plusieurs fois là-dessus. Et la fois dernière, là, il avait dit qu'il veut assez que les élections aient lieu en 2023. Et le respect du délai est constitutionnel. Donc, c'est déjà la volonté politique exprimée. Donc,
Vous avez suivi Franklin Tchamala qui pense qu'il y a comme un agenda caché qui voudrait pousser au glissement.
Non, ça c'est sa manière de penser. Il est libre de penser comme ça, mais la volonté politique existe. Ce n'est pas comme en 2016 où il y avait la volonté d'aller au glissement. Actuellement, le chef de l'État actuel n'en a pas besoin. Il veut vraiment aller aux élections en 2023 pour respecter les délais constitutionnels. Il a exprimé plusieurs fois, ça ne sert à rien d'ouvrir de pousser une porte qui est ouverte, donc ça ne sert à rien.
Est-ce qu'il y a des moyens pour...
Il y a un acheté du gouvernement actuel pour aller au glissement, c'est faux et archi-faux.
Est-ce qu'il y a les moyens financiers pour ce processus électoral?
Bon, je vais répondre à la question de moi. Je sais que c'est le gouvernement qui peut répondre principalement à cette question-là, mais moi, en tant qu'autorité budgétaire, une des contraintes qui nous concerne aussi, c'est par rapport à la production à temps des lois essentielles. Nous espérons que d'ici le 15 mars, comme nous sommes déjà nous sommes déjà presque, nous sommes déjà au mois de février, d'ici le 15 mars, il y aura la rentrée parlementaire. Parmi les lois essentielles à traiter pendant cette session, ça sera les lois en rapport avec les élections, notamment la loi électorale et d'autres lois essentielles qui vont permettre à ce qu'il y ait les élections dans les délais.
Alors, on aurait déjà eu...
Les moyens.
Monsieur Tchabola...
dans le budget actuel 2022, le budget a quitté, le budget de 2021 qui a été révisé, tout ce qui avait eu comme problème a été rehaussé. Vous savez que nous sommes déjà au-delà de 10 milliards. Et dans ce budget, il y a un montant qui a été réservé pour les élections. Nous espérons que le gouvernement fera tout son possible pour réunir les moyens, disponibiliser ces moyens pour que la CENI puisse nous organiser, que la CENI organise l'ensemble des étapes qui vont nous conduire aux élections en 2023.
Par rapport à la production des lois essentielles, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous députés nationaux? On devrait déjà avoir ces lois aujourd'hui au moment où nous parlons.
Bon, j'espère qu'il n'est pas encore tard pour mieux faire. Nous avons encore 16 à 17 mois. Devant nous, le mois de mars, c'est d'ici un mois. La population doit prendre son mal en patience pour que d'ici le 15 mars, à la rentrée, l'Assemblée nationale et le Sénat vont se pencher sur ces lois essentielles pour permettre à ce que la CENI puisse avoir ses outils nécessaires. Donc, j'espère que c'est question de quelques jours. Ou un mois et quelques jours que ces lois-là seront disponibilisées.
Alain Lomandja, analyste des questions électorales, votre point de vue sur la publication de la feuille de route du processus électoral.
Excusez-moi madame, je voudrais d'abord commencer par dire rappeler un élément important qui a déjà été dit, celui de la différence entre une feuille de route et un calendrier électoral. Et d'un point de vue juridique, la CENI, on le sait, est tenue par l'obligation légale de publier un calendrier électoral alors qu'il n'existe aucune obligation de publication d'une feuille de route. Pour moi, cette publication de la feuille de route est un résultat normal du plan stratégique de la CENI. C'est un document interne qui vise à faciliter les échanges avec toutes les parties prenantes, à favoriser le plaidoyer auprès des acteurs institutionnels, mais aussi à mettre en exergue les contraintes qui peuvent bloquer l'évolution du processus électoral. Donc, ce que je considère personnellement comme très important, c'est le fait que par cette publication de la feuille de route, c'est comme si la CENI lançait une alerte à prendre très au sérieux. Son message peut être résumé simplement en ces termes: si on ne prend pas en compte les contraintes, les délais constitutionnels pour l'organisation de la présidentielle et d'autres scrutins ne seront pas tenus. Et ce que je regrette, moi, personnellement, après analyse de la feuille de route, c'est de constater que ce document est très imprécis et vague. Il n'explique pas, par exemple, les différents cas de figure possibles et leurs implications dans le cycle électoral. Je donne juste, peut-être, pour expliquer cela aux auditeurs. Par exemple, quand la CENI parle de la mutualisation des forces dans le recensement de la population, il y a une option qui a été levée par le gouvernement. On voudrait que, au lieu de l'enregistrement des électeurs, on puisse procéder cette fois-ci au recensement de la population et que de ces recensements naisse le fichier électoral que la CENI va utiliser. Or, nous savons que ce processus peut prendre beaucoup de temps et si ça ne commence pas à temps, si des problèmes de leadership entre les différentes institutions qui interviennent dans cette activité ne sont pas levés à temps, cette activité peut bloquer l'évolution du processus électoral et on ne pourra plus tenir les délais constitutionnels. Or, la CENI parle seulement de la mutualisation, elle ne clarifie pas à partir de quel moment elle voit que le processus électoral est en danger si on n'a pas lancé l'opération de recensement ou s'il faut carrément séparer le recensement de la population de l'enrôlement des électeurs pour permettre que le processus électoral évolue normalement. La CENI ne dit rien à ce sujet-là. Une autre incertitude majeure, on la connaît, c'est l'absence des lois qui forment le cadre légal et électoral. On sait que la loi électorale va être révisée. Mais jusque-là, on l'avait programmée à la session de septembre, elle n'a pas été traitée. Et quand vous parliez tout à l'heure de la volonté politique, je pense qu'elle s'exprime aussi dans les votes des lois nécessaires au processus électoral. Le pouvoir en place a la majorité, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que sa manière d'exprimer clairement la volonté politique, c'est d'adopter à temps les lois. Maintenant, on attend cette loi-là à la session de mars, en espérant qu'elle soit votée à la session de mars. Et vous voyez la difficulté que ça donne. La CENI doit produire une feuille de route avant d'avoir toutes les lois pour le processus électoral, alors que les lois font partie de la première étape d'un cycle électoral et la planification ne vient qu'en deuxième position. Maintenant, on commence avec la planification avant d'avoir les lois et vous avez toutes les imprécisions que nous avons dans la feuille de route, tout simplement parce que on ne sait pas exactement est-ce qu'on va avoir une présidentielle à un tour ou à deux tours. La CENI ne le sait pas. Est-ce qu'on va avoir les mêmes circonscriptions électorales? La CENI ne le sait pas. Est-ce qu'on va organiser les élections locales en même temps que les élections nationales et provinciales? Tout ça, il faut d'abord que la loi électorale soit votée pour qu'on le sache. Mais ne sachant pas...
Le député Tshabola l'a dit ici, ils vont le faire au mois de mars. Ils pensent qu'ils ne sont pas en retard. Il y a encore du temps.
Si on avait déjà la loi, on pouvait déjà publier le calendrier électoral. Parce que c'est le calendrier électoral qui est l'outil juridique contraignant et pour la CENI, et pour le gouvernement, et pour toutes les parties prenantes, et pour les partenaires internationaux qui peuvent financer ou contribuer au financement du processus électoral. Or, à l'état actuel, la CENI ne peut pas publier un calendrier électoral parce qu'il n'y a pas de loi électorale. En espérant que cela soit fait au mois de mars et qu'on accorde à cela le bénéfice de l'urgence, il faudra attendre peut-être le mois de mai, le mois d'avril ou le mois de mai pour que la loi soit publiée et que la CENI puisse publier le calendrier électoral.
Donc, alors, vous pensez que si ce calendrier est publié au mois d'avril ou mai, le délai risque de ne pas être respecté, pour la tenue de prochaines élections?
Le problème, madame, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour parler de délai à respecter, à tenir ou à ne pas tenir. Il n'y a pas que le calendrier électoral. Il y a aussi un autre problème important, c'est le problème de financement. Il avait été déclaré que le gouvernement, dans le budget 2022, avait prévu 250 millions de dollars pour la CENI. Mais selon les informations à ma possession, jusqu'à ce jour, la CENI ne reçoit cet argent-là qu'à compte-gouttes. Et donc, ça signifie qu'elle ne peut pas avoir la possibilité de réaliser toutes les activités qu'elle est en train de programmer parce qu'elle n'a pas tous les moyens. Elle n'a pas tous les moyens. Donc, il n'y a pas que le calendrier, il n'y a pas que les lois, il y a aussi les financements. Et vous savez, en général, que les partenaires internationaux, par exemple, ne donnent de l'argent que quand le calendrier est publié et qu'ils voient la contrainte des délais à respecter. Regardez déjà même pour l'élection des gouverneurs des provinces qui sont sans gouverneur pour l'instant. On a pris du temps, on a reporté plusieurs fois et maintenant on projette ces élections-là au mois d'avril. Et vous vous rendez compte, au mois d'avril, donc pour des élections qui indirectes, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, la CENI n'est pas capable, n'est pas maîtresse de son calendrier.
Alain Lomancha, on peut dire que Denis Kadima a bien fait, a eu raison d'alerter sur toutes ces contraintes.
Tout à fait, tout à fait. Il fallait en parler parce que ça lève une certaine ambiguïté. Et ce que j'ai apprécié personnellement dans les documents, c'est qu'il y a eu un langage clair où on dit clairement ce qui est attendu du gouvernement, de tous les acteurs, et les contraintes sont bien détaillées. Seulement, là où je trouve que la CENI n'a pas non plus joué franc jeu, il fallait continuer les raisonnements et montrer carte sur table que si on associe, par exemple, l'enrôlement des électeurs au recensement de la population, voilà à quoi il faut s'attendre. Nous aurons, au lieu peut-être de 16 mois, on aura besoin de 20 mois, 25 mois, et nous serons déjà probablement au-delà des délais constitutionnels.
Alors, une précision, le président de la CENI a annoncé que les discussions vont se poursuivre avec toutes les parties prenantes pour améliorer cette feuille de route.
Oui, justement, les discussions sont nécessaires. L'un des objectifs de la feuille de route, c'est de favoriser ces discussions-là avec les parties prenantes. Mais je pense qu'il est de la responsabilité de la CENI de clarifier dès le départ les options, les cas de figure et les implications de chaque cas de figure dans le déroulement du processus électoral. Comme ça, parce qu'il y a, par exemple, madame, si vous permettez, plusieurs options qui doivent être élevées. Ces options-là ne peuvent pas être élevées par le gouvernement tout seul, parce qu'on sait que le gouvernement, ou du moins ceux qui dirigent le gouvernement, peuvent être partie prenante au processus électoral. Ils ne vont pas décider tout seuls, par exemple, des modalités de scrutin ou des délais à respecter ou non. Il faut qu'il y ait des concertations autour de la CENI. C'est la CENI, parce que maintenant, les acteurs politiques ont horreur du mot dialogue, ils ont peur de ce qu'ils appellent partage de pouvoir, mais c'est la CENI qui peut réunir les cadres de concertation avec les institutions, avec les partis politiques, pour que ces options-là soient levées rapidement. Aussi longtemps que les options ne sont pas levées, on ne peut pas espérer que le processus électoral progresse.
Franklin Tchamala, le président de la CENI, a aussi prévenu que si on opte pour un deuxième tour pour l'élection présidentielle, cela aura une incidence sur la feuille de route et sur le calendrier électoral qui prévoit la tenue des scrutins directs entre septembre et décembre 2023.
C'est un élément en fait des incertitudes voulues que l'on fait peser sur les processus électoraux. Mon co-débatteur de tout à l'heure, expert de son état, a évoqué toutes les incertitudes qui pèsent sur ces processus en partant du volet de son financement. Il a même évoqué toutes les incertitudes qui grèvent ces cycles en mettant sur la table notamment les retards dans l'adoption et la promulgation des lois essentielles qui doivent régir le processus électoral et qui doivent comporter les réformes consensuelles qui vont présider à l'organisation des élections. Alors, je dis, toutes ces incertitudes, y compris notamment les volets que vous venez d'évoquer, celui lié à la revendication de certains acteurs politiques de la prise en compte du deuxième tour, de la restauration du deuxième tour pour l'élection présidentielle. Il dit, tous ces éléments, si déjà ils n'ont pas fait l'objet des négociations hier, étant donné que les partenaires politiques s'est voué une méfiance assez forte jusqu'en ce moment, et pensez-vous que au cours de 16 mois qui restent, tout cela pourra être fait? D'abord le financement lui-même, 600 millions, ils sont à trouver pendant les 16 mois qui restent. Alors que, comme vous le savez, et les 16 millions, c'est quand même une bagatelle importante qu'un seul exercice budgétaire ou deux exercices ne peut pas supporter, compte tenu de la taille faible de notre budget. Maintenant, lorsque vous y ajoutez toutes les négociations qui doivent se faire autour de la forme du scrutin lui-même et de toutes les subtilités que ce scrutin doit comporter en termes de réformes. Et donc, ça peut nous prendre encore une ou deux ans sans que tout ceci aboutisse. Voilà pourquoi nous disons que la volonté politique, elle n'est pas déclaratoire, elle est opératoire. Un processus électoral ne se prépare pas à la hâte. Le processus électoral, il est préparé déjà à partir de son seuil. À partir du seuil, ça veut dire à partir de au lendemain des élections 2018, tel que le dit le Premier ministre honoraire Matata Ponyo dans sa tribune récente qu'il a publiée, au lendemain des élections 2018, on devait déjà commencer la réflexion sur la pérennisation du processus. On devait déjà commencer à mettre de côté les ressources destinées à couvrir le processus 2023. On ne l'a pas fait, c'est à la veille. On voudrait le faire, mais on le fera comment? Compte tenu de toutes les priorités que charrie un exécutif budgétaire. Comment on va le faire? Vous voyez? Et donc, nous sommes là, en train de vouloir apporter au cours de ce peu de temps qui nous reste, beaucoup de problèmes au même moment, et donc ça devient compliqué, ça devient une équation compliquée, c'est cela qu'elle a fini.
Alors on va prendre pour vous Franklin Tchamala cette réaction qui nous vient de la Tchopo.
Antoine Lombo, depuis la ville de Kisangani, nous demandons à la CENI d'être sereine dans sa paix de route. Avant tout état de cause, nous constatons une volonté politique exprimée par le pouvoir de financer le processus électoral en horizon 2023. Les incidences exprimées par la CENI ne peuvent pas altérer l'effectivité du scrutin, car le gouvernement se félicite du dépassement des seuils aux régies financières, notamment la DGDA, DGI, la DGRAT et autres. L'argent y est et la volonté politique. Nous optons pour la présidence à deux tours afin de minimiser les conflits post-électoraux et appuyer la légitimité du gagnant, car le pays est culturellement diversifié.
Que pensez-vous, Franklin Tchamala, de ce point de vue de Elombo qui nous a appelé depuis Kisangani?
Non, mais c'est un point de vue citoyen. Dans tous les cas, la volonté n'est pas déclaratoire, elle est opératoire. Quelqu'un a dit tantôt que le budget de l'État a connu une augmentation forte, il est passé à 10 milliards de dollars, mais tout le monde sait que la mobilisation des ressources internes ne dépasse jamais les 4 ou 5 milliards de dollars. Tout le monde le sait. J'ai été au gouvernement, j'en sais quelque chose. Tout le monde sait que les partenaires extérieurs, généralement, n'apportent pas de l'argent. On n'a pas vu. Le processus 2008 a été financé en ressources par les ressources propres. Le processus 2018 a été financé par les ressources propres. J'ai participé à beaucoup, à toutes les concertations entre la CENI et les partenaires extérieurs et le gouvernement. Je n'ai pas souvenir que un partenaire a pu mettre la main à la poche pour appuyer le processus. Les partenaires, comme la MONUSCO, ont dû donner, contribuer en mettant à la disposition de la CENI leur logistique de transport afin de faciliter le déploiement de la logistique électorale. Ils ont mis à la disposition de la CENI notamment leurs unités de sécurité pour sécuriser les procès électoraux. Ça veut dire sécuriser les personnels, la CENI, son matériel, ça et là. Ça s'est limité là. On n'a pas vu un partenaire décaisser l'argent de sa poche pour appuyer le processus. Et donc, encore une fois, c'est une situation qui pourra, encore une fois, se répéter dès lors que les partenaires internes eux-mêmes, en fait, les acteurs internes eux-mêmes, n'arrivent pas à dégager un consensus sur les matières qui doivent faire l'objet du dialogue et des matières qui sont à prendre en compte dans les lois qui devront en fait consacrer les réformes essentielles qui sont revendiquées par les uns et les autres. Donc j'ai dit, c'est un point de vue citoyen, je le respecte, mais je mets au devant de mon concitoyen les éléments probants, la taille de notre budget. Le gouvernement a beau dire il y a dépassement, mais le gouvernement en même temps fait face à beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'il n'arrive pas à aborder. Mais en plus de ces problèmes, le gouvernement se donne lui-même d'autres priorités nouvelles. Et naturellement, et tout ce qui sont importants dans le contexte de notre pays du point de vue de l'agenda de développement de notre pays, mais des priorités en fait qui ne lui laissent pas beaucoup de marge de manœuvre.
Toumba Tchabola, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Espérant Jardel Ilunga Bayamba de Kinshasa. Nous saluons la feuille de route du processus électoral qu'a annoncé la CENI, car le respect du délai constitutionnel est vraiment notre souhait en tant que population. De ce fait, nous demandons au gouvernement de la République de manifester la volonté et de mettre les moyens à disposition en évitant les retardements de financement pour les opérations électorales. Par ailleurs, nous demandons au Parlement congolais d'exclure l'idée de deuxième tour pour l'élection présidentielle en ce moment, car c'est un processus qui demande la révision constitutionnelle. Quant à l'insécurité à l'est du pays, que cela ne soit pas motif de retardement du processus électoral, car nous savons déjà qu'il y a eu une jurisprudence la fois dernière. Merci.
Toumba Tchabola, comment vous analysez ce point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kinshasa?
Nous tenons d'abord à remercier notre patriote Espérant Ilunga Bayamba, puisqu'il se soucie comme nous, comme le chef de l'État, du délai constitutionnel pour l'organisation des élections. En dehors de ça, l'ensemble des contraintes que dans tous les pays du monde, il y a toujours des problèmes à résoudre, mais on fait toujours tout pour tenir les délais institutionnels quand il y a la volonté politique qui est exprimée, comme actuellement c'est le cas en République démocratique du Congo par les chefs de l'État. Bien que notre compatriote Sangrin parle de la volonté, que la volonté ne s'exprime pas, elle n'est pas seulement déclaratoire. Bien sûr, elle se manifeste. La volonté, avant de se manifester, elle doit d'abord être déclarée. Elle est déclarée et la manifestation est qu'aujourd'hui la CENI est mise en place. L'ensemble des contraintes, le gouvernement, le parlement et toutes les autres institutions qui travaillent pour trouver des solutions afin qu'on aille aux élections en 2023.
Vous avez suivi notre analyste Alain Lomanja qui a parlé d'une alerte de la CENI. Vous, en tant que membre de l'Union Sacrée, député national, est-ce que toutes ces contraintes auraient pu être évitées?
Nous espérons que le collier des contraintes, comme je vous avais dit à l'introduction de notre émission, qu'il y a des contraintes qui vont trouver certainement des solutions rapidement, comme une sur la volonté politique, elle n'a rien à la volonté politique existe. Il y a une des contraintes que notre Alain Lumanja a évoquées par rapport à la mutualisation. Ça veut dire sur le recensement et l'enrôlement des électeurs. Je pense que ça sera le gouvernement avait déjà levé l'option pour dire que même si nous attendons la loi électorale et d'autres modifications qui vont y avoir lieu et d'autres réformes. Mais l'essentiel, c'est que ça ne sera pas lié. Le recensement de la population ne va pas impacter sur l'organisation des élections.
Alain Lomanja, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bumba dans la province de la Mongala.
C'est moi, Hervé Tonnet, j'appelle depuis la ville de Bumba dans la province de la Mongala. À mon avis, je pense que la CENI pourrait avoir raison quant à sa tête des routes, d'hiver. Et d'autre part, je vois la complicité de la CENI et sa malignité quant à cette CENI. Pour sa raison repose sur le fait d'avoir dévoilé et donné les dates d'organisation des élections à tous les niveaux dans les délais constitutionnels et aussi une manière de se couvrir pour la campagne électorale. Selon nous, sa complicité repose dans le fait que le président de cette institution est nommé par et donc, il est en train de faire la volonté de ces derniers pour favoriser l'existement. Pour moi, je sais qu'il faut mettre en place les lois pour permettre à cette centrale d'atteindre ses objectifs. Aux acteurs politiques congolais, de faire preuve de leur volonté politique, car la volonté politique peut créer les moyens et la sécurité.
Bref, réaction à la Lomanja.
De faire un procès d'intention, c'est clair que le nouveau bureau de la CENI est arrivé à la tête de la CENI dans les conditions que tout le monde connaît. Je ne vais pas revenir sur cela aujourd'hui, ce n'est pas le débat. C'est aussi clair que le nombre des membres de la majorité au pouvoir à la CENI est beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu lors des cycles électoraux précédents. C'est un fait sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Moi, ce que je veux prendre, c'est le fait que la feuille de route a été rendue publique, que la CENI a mis sur la table les contraintes qui peuvent empêcher le respect des délais constitutionnels.
Alors, il y a maître Jean Kabamba de Pimbujimaï qui dit ceci, les préalables posés par le président de la CENI sont tout à fait logiques d'une part, et d'autre part, lui en tant que technicien spécialiste en la matière devrait suggérer en même temps des mesures palliatives.
C'est tout à fait pertinent ce que l'auditeur dit, parce que chaque fois qu'on met sur la table les contraintes, Il faut trouver ce qu'on appelle les mesures de mitigation. Oui, ça n'a pas été présenté par la CENI. Et c'est pour cette raison-là que, si vous permettez, moi je voudrais peut-être faire quelques propositions rapidement. Pour moi, la première chose, si on veut lever certaines contraintes, c'est qu'aussitôt après l'adoption de la loi électorale, que la CENI publie le calendrier électoral avec un budget opérationnel détaillé, car c'est cet instrument-là qui va être une contrainte pour tous les acteurs institutionnels et autres, et qui permettra la mobilisation des fonds en vue des activités préélectorales. La deuxième chose que je voudrais proposer, c'est que, en fait, dans l'idéal, un bon fichier électoral pourrait découler du recensement de la population. Mais il est quand même dommage que les acteurs politiques ne parlent du recensement qu'à l'approche des élections. Si on ne peut pas tenir les délais avec un recensement général de la population, il faut carrément qu'on renonce à cette idée-là et qu'on sépare l'enregistrement des électeurs de l'opération du recensement de la population. Là, c'est depuis 2020 qu'on en parle. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui?
Vous avez suivi les députés Tchabola, les élections de 2023 ne vont pas dépendre du recensement.
Oui, mais le problème, c'est quoi? Si vous lisez attentivement la feuille de route, madame, vous vous rendrez compte que la CENI présente la mutualisation comme contrainte. En d'autres termes, c'est que la CENI a déjà adopté la proposition du gouvernement qu'il faut travailler avec l'ONIP, il faut travailler avec le ministère de l'Intérieur, avec l'Institut national de la statistique pour le recensement de la population. C'est ainsi que, au lieu du fichier électoral, c'est la mutualisation qui est présentée comme une contrainte. Il faut sortir de cette logique-là et se dire, compte tenu des délais constitutionnels à respecter, si nous ne pouvons pas faire le recensement, que la CENI s'occupe de l'enregistrement des électeurs pour que les fichiers électoraux soient constitués et que les élections puissent avoir lieu dans les délais.
Franklin Tchamala, ça sera votre conclusion. Quelle solution faut-il pour contourner toutes ces contraintes?
Je pense encore une fois que notre volonté politique en tant qu'élite de ces pays est mise à l'épreuve. Je fais mienne d'ailleurs la réflexion que le Premier ministre Matata Ponyo, le Premier ministre honoraire, a mis sur la table dans le cas de la tribune qu'il anime, ce que je pense. Parce qu'il s'interroge au-delà de tout ce que nous disons sur l'opportunité de ces élections. Parce qu'il dit, en même temps, il dit, bon, c'est beau tout ça, c'est beau, mais ça coûte quand même cher. Au-delà de notre incapacité à pouvoir réunir ce financement, au-delà, comme il apparaît, de notre incapacité à pouvoir aborder ces contraintes telles qu'elles sont alignées par la CENI. Parce que regardez, c'est depuis les débuts de cette législature que le gouvernement actuel a parlé de la nécessité de faire le recensement. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que ce recensement se fasse effectivement? Rien du tout. On a même donné à l'ONIP un nouveau comité de gestion depuis environ 2 ans. Mais ce comité-là, il est payé pour rien parce qu'il tourne les pouces. La volonté politique, c'est dans les actes, ce n'est pas dans la déclaration. Alors, mais en définitive, ces élections-là, c'est pour faire quoi? C'est pour perpétuer les mêmes théâtres d'hier qui a consisté à nommer comme ça des députés nationaux, provinciaux, des sénateurs qui, au cours d'une législature, passent tout leur temps au Palais du Peuple et dans les différents parlements.
Et donc, il ne faudrait pas les organiser?
Pardon?
Il ne faudrait pas les organiser?
Non, il faut vraiment une réflexion de fond pour effectivement rassurer notre peuple que les résultats auxquels nous irons par rapport à ces élections seront des résultats différents de ce que les cycles électoraux antérieurs nous ont donné, parce que jusqu'ici, les élections n'ont servi qu'à donner au peuple des agents de sous-développement.
Merci.
On a mis beaucoup d'argent à financer notre propre sous-développement et ce n'est pas nécessaire de continuer sur cette lancée.
Merci Franklin Tchamala. Toumba Tchabola, votre conclusion aussi en 30 secondes. Vous restez confiant que les délais constitutionnels seront respectés?
Respectés parce que c'est la volonté du chef de l'État et de son régime, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les élections aient lieu en 2023. C'est très grave quand même ce que déclare M. Franklin Tchamala pour dire qu'il n'y ait pas des élections. En même temps, il réclame une chose de son contraire et il pense que les députés ont été nommés aux élections de 2018. Peut-être parce que lui n'a pas été élu à cette élection-là. Je pense que s'il était parmi les députés élus, il pouvait tenir les discours contraires. Mais le plus important, qu'il y a l'intervenant de l'expert qui a dit que le président de la CENI, puisqu'il a été nommé par le chef de l'État, sera la volonté du chef de l'État, ce qui est faux. Le président de la CENI va organiser les élections pour tout le monde, que le meilleur l'emporte. Donc
merci.
Les élections vont avoir lieu, préparez-vous pour les élections, au lieu de vous préparer pour, au lieu de faire des bruits ou des marches inutiles, c'est mieux de vous préparer pour les élections pour qu'elles auront bel et bien lieu. Au gouvernement, de mobiliser les moyens afin que les élections aient lieu et à la CENI de se pencher, de faire son travail pour qu'elle nous organise les élections. Nous allons porter les lois d'ici le 15 mars. Nous demandons à notre bureau de programmer en premier lieu la loi électorale, qu'elle soit examinée pour qu'elle soit publiée d'ici 5 mars ou début avril.
Merci Toumba Tchabola. Alain Lomanjo en 30 secondes. Votre mot de la fin.
Publier rapidement le calendrier électoral après l'adoption de la loi électorale et un budget opérationnel détaillé, faire adopter toutes les lois nécessaires au processus électoral et prioriser les scrutins en fonction de nos moyens disponibles. Voilà ce que je peux proposer à la CENI.
Merci Alain Lomanja, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui était à la réalisation, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.